Bonjour et bienvenue dans Brasseur Podcast, saison 4, épisode 9, le nouveau brasseur.
Aïe aïe aïe, l'épisode tant attendu.
Absolument, bonjour tout le monde, bonjour Antoine.
Salut.
Comme vous pouvez peut-être l'entendre, bon déjà on est trois.
Ouais.
Et puis on enregistre depuis Brassy.
Ouais.
Ce qui arrive pas souvent, mais qui arrive parfois. J'ai essayé de vous mettre un petit micro d'ambiance pour que vous puissiez entendre les glouglous. On va pas le garder tout l'épisode. Je pense que ce sera jusqu'au générique. Hein, mais
okay.
Ça vous donne une petite idée de l'ambiance. Et on va donc profiter de cet épisode pour présenter Antoine.
Et qui est Jean-Claude,
vous l'aurez bien compris.
Voilà. 56 ans, camionneur, en reconversion.
On va faire ça en trois temps. On va parler un peu de toi d'abord, te présenter, raconter un petit peu ce que tu as fait avant.
Mm-hmm.
Attention, c'est l'entretien.
Ouais. Bien sûr. Les gens veulent savoir.
Puis on va parler de ton arrivée chez Tipsip. Pourquoi
et oui,
comment
Tipsip,
t'es tombé dessus?
Prenez le réflexe et l'habitude.
Vous avez remarqué, on a switché.
Voilà, et sinon écoutez l'épisode d'avant et vous comprendrez pourquoi Tipsip.
Et puis, on finira par parler de la répartition des rôles, de la complémentarité de ton rôle avec celui de Robin. C'est parti, générique.
Attention à la bouche !
Monsieur va peut-être nous offrir un verre ?
Je peux avoir de bière ?
C'est pas ça.
Et vous buviez combien par jour ?
Ça, je sais pas. Je compte pas. Mal 40 ?
Signorina.
Et donc, bienvenue à Brassy.
Et ouais.
Pour la présentation du nouveau brasseur de Tipsip, Antoine. Ah ben ça me fait plaisir de faire un épisode à trois, en vrai c'est cool.
Ouais, ça va. Ouais. Je pense que ça va remettre une nouvelle dynamique.
Ouais, moi je commençais à me faire un peu chier tout seul.
Ouais, avec moi qui fais des monologues et toi qui m'écoutes et qui des fois décroche. Et...
Non. mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça fait un moment qu'on annonce cet épisode.
Ouais.
Et donc, on va commencer, si t'es d'accord, par parler un peu de toi.
Qui es-tu ?
Qui suis-je ? Attention. enchanté tout le monde. Moi, c'est donc Antoine, alias Jean-Claude.
Et les gens ont bien aimé le surnom, je crois.
Ouais, ça marche.
Je crois que ça a tenu un peu.
Il y a Marie qui me disait même que des gens... qui sont pas auditeurs du podcast disaient mais c'est quoi cette histoire de Jean-Claude, qui est Jean-Claude et tout.
J'ai rencontré un type et il m'a dit ah ouais mais je sais pas, un utilisateur qui m'a dit ah si je vous suis là, mais tu t'appelles Jean-Claude non?
C'est énorme. Ah ouais, il t'a dit ça?
Ouais,
c'est énorme.
Donc nouveau brasseur ici, ouais, j'en ai bien peur.
Comment ça s'est fait ton entrée dans le milieu brassicole? Est-ce que tu as toujours fait ça ou...
Non, moi j'ai pas toujours fait ça. Ça fait 2 ans vraiment que je me suis reconverti en pro, quoi. Mais à l'origine, non, j'étais plus dans le marketing.
Ok.
Donc j'étais dans le marketing télécom, chef de produit. Dans une autre vie presque.
Ouais, ouais.
Puisque c'est pas du tout la même chose. C'est qu'il y a 2 ans où vraiment j'ai décidé de me reconvertir dans la bière,
ouais.
En tout cas en professionnel. Après, le brassage, moi, ça fait à peu près 6 ans que je suis dedans.
Ouais, donc t'es passé par la case de brasseur amateur.
Je suis passé par la case amateur, ouais. Et c'est vraiment ce qui m'a lancé là-dedans, forcément.
Ouais.
Sur quoi tu brassais ?
Sur quoi je brassais ? Alors, le premier brassin que j'ai fait... C'était dans une marmite en fonte de 5 litres. Et c'était un vieux kit.
De la filtration aussi.
Ah non, mais ça, c'était plus tard.
Ah, c'est plus tard, ok.
Parce que les premiers brassins que j'ai fait, c'était un kit.
Ok.
Et je faisais ça dans ma cuisine, machin, dans une marmite en une cocotte en fonte, tu vois, pas du tout adaptée. Boil over, machin, t'en as partout dans la cuisine. Et tu te dis, ouais, plus jamais je fais ça, quoi. Donc j'ai fait deux fois ça dans ma cuisine, en kit. Ça, franchement, c'était sympa, mais ça m'avait pas retourné la tête, quoi. Puis du coup, j'avais un peu de matos, et après j'étais en coloc, et avec mon coloc, lui m'a dit, bah t'as tout le matos, vas-y, on essaye. Et là, pour le coup, c'était en tout grain, on a moulu le malt avec un moulin à café Peugeot en mettant une visseuse dessus. On a fait ça dans un percolateur à café en essayant de touiller pour pas que ça crame au fond, et puis on a filtré ça dans un panier en osier.
C'est ça.
Le premier brassin nous a pris 2 soirs, genre 18h, 2h du matin.
Ah ouais.
On l'a fait en 2 fois. Alors, je sais plus exactement comment on s'était démerdé, mais c'était un enfer, quoi. C'était un enfer. Et la bière était pas dégueu.
Comme quoi?
C'était quoi comme volume?
C'était, ça devait être 15-20 litres, quoi.
Ouais.
Et ouais, contre toute attente, c'était bon. je pense que ouais, c'était pas exceptionnel non plus, mais ça en passait.
Quoi, c'est pas on l'a panier en osier. Et... Moi, j'adore la filtration en panier en osier.
C'est drôle, ouais. Trop stylé. C'est très drôle. Et, mais où est-ce que tu as trouvé les connaissances
Là, ça, c'est, je pense c'est un peu comme tout le monde au début. Hein. On a quand même maintenant des sites qui sont vachement fournis.
Ouais.
Alors, il y a 6 ans, il y avait un peu toutes les théories possibles et inimaginables sur les forums de brasseurs, brassage amateur, ce genre de choses.
J'imagine que les recettes de Naipa devaient être...
t'avais des théories, machin. Ça dépend où tu cherchais les infos, quoi. Ouais. Si tu voulais conforter l'idée que t'avais de mettre du houblon à cette étape-là, par exemple, tu pouvais trouver un mec qui disait que c'était la bonne façon de faire, quoi.
Ok.
Maintenant, bon, c'est quand même un peu plus... Il y a plus d'infos, surtout tout ce qui est tout ce qui nous vient des États-Unis, etc. T'as plein de forums qui disent à peu près tous la même chose. Donc c'est plus simple d'avoir une idée un peu,
ouais,
un peu précise de comment faire ce genre de choses, quoi.
Est-ce que t'as senti une évolution sur la qualité de l'information entre il y a 6 ans et maintenant?
Ouais, sur les forums,
ouais,
carrément.
Ouais.
Parce que vraiment, au début, les gens n'étaient pas d'accord.
C'est le Far West, ouais.
Alors que maintenant, bah, tu sens qu'il y a les petits nouveaux qui posent des questions, les gens qui savent un peu plus ou qui sont pros qui vont y répondre à ces trucs-là, quoi.
Ouais.
Et puis maintenant, t'as des amateurs qui sont devenus pros, comme moi, ou comme plein d'autres, tu vois, et qui voient un peu comment ça se passe dans une brasserie pro, quoi. Donc,
Ouais.
Mais c'est une mine d'infos quand même, ces trucs là ouais. Et après les bouquins aussi, How to Brew, super bouquin pour commencer, de John Palmer. Et puis après les bouquins, il y en a plein d'autres un peu plus spécifiques, quoi. Ouais. C'est souvent en anglais.
Est-ce que vous voudriez dire que ouais, c'est ça, la source de ces connaissances, elle est quand même souvent elle vient souvent des États-Unis, quoi.
Ouais, ou bah même d'ailleurs, tu vois, enfin par exemple là j'ai acheté un bouquin super intéressant sur des méthodes historiques de brassage sur notamment les Gveik et tout ça.
Okay.
Et qui vient pas des États-Unis, mais pour le coup en anglais, quoi.
Ok, stylé.
Et qui est pas traduit, je crois.
Bon, allez à la bibliothèque du coup, hein, la morale de l'histoire. Allez pas sur Facebook.
Je crois qu'à la bibliothèque de Brassé, il doit y avoir des bouquins.
Il y en a un. Et donc ça veut dire que t'as fait du brassam pendant 4 ans avant de devenir pro, c'est ça?
Ouais.
Et t'étais où géographiquement parlant?
J'étais dans la Manche à l'époque, à Avranches, donc pas très loin du Mont-Saint-Michel.
Ok.
Et on avait une petite coloc, on était 5-6 des fois, ça dépend, ça bougeait un peu, vraiment paumé en pleine campagne.
Ok.
Et du coup, on brassait et ça nous permettait d'écouler des litres et des litres. Donc notre petit rituel, c'était de brasser 20 litres toutes les semaines.
Ok, et quand
puis,
même.
Bon rythme. Bah ouais. Quand tu te lances là-dedans, t'as juste une envie, c'est de refaire le truc. Puis t'as la sensation en tant que brasseur amateur, ce qui est un peu, enfin même en tant que pro en fait, c'est que si t'es vraiment exigeant sur ce que tu fais, tu te dis le prochain brassin, c'est bon, j'ai toutes les infos.
Ouais.
Il n'y a pas moyen, ça va être la meilleure bière que j'ai fait, ça va être nickel. Et en fait, bah il y a toujours un truc qui, tu vois, améliorer.
Ouais.
Donc dès que tu as fini un brassin, tu le goûtes, tu te dis putain. Il fallait que je fasse ça, tu vois.
Ouais.
Donc, brasser fréquemment, c'est quand même assez cool, quoi.
Et du coup, vous brassiez que dans la coloc ou il y avait d'autres... Enfin, t'avais trouvé un groupe de brassam...
Non, c'était vraiment...
Non,
c'était que à la coloc. Du coup, on était un peu enclavé. Tu vois, heureusement qu'il y a Internet, quoi. Parce que sur ce genre de truc, on a un peu tout appris à deux. Alors, notre délire, c'était un peu aussi de creuser un peu ce qu'on pouvait faire avec le matos.
Ouais.
Donc en fait, on n'a jamais eu de grain phaser, de cuve un peu automatique comme ça. On a toujours voulu faire nos cuves nous-mêmes.
Améliorer le panier en osier.
Améliorer le panier en osier. Créer des filtres en cuivre et tout. Enfin, c'est des trucs qu'il y a sur Internet, quoi. Mais faire un peu d'électronique pour que la température de l'empattage se gère automatiquement, ce genre de choses.
Okay, ouais.
Faire des Ingbird maison, tu vois, avec des petits contrôleurs de température avec des Arduino, des trucs comme ça. Et ça, c'était vraiment notre kiff, quoi.
Okay.
C'était la première fois qu'on a fait un Ingbird qui pouvait se connecter en Wi-Fi. Et du coup, depuis le boulot, je pouvais voir la température de mon placard et changer la température. C'était trop bien. Mais du coup, c'était ça qui nous motivait aussi. Après, franchement, c'était dangereux de mettre un sèche-cheveux dans un placard avec plein de laine de verre, mais... avec du recul, faites pas ça, quoi. En vrai, une bird, ça coûte 50 balles. mais c'est ça qui nous motive aussi, et puis de creuser un peu tous les
points. On va lancer un hors-série, les tutos d'Antoine.
Ouais.
Comment brûler sa baraque.
C'est ça. Oui, c'est ça, les deux notes, quoi.
Mais avoir une bonne bière. Hein.
Ouais. Et d'ailleurs, tu parles de tes colocs. Est-ce qu'il y en a qui seront eux aussi professionnalisés ou est-ce que c'est resté
Ouais, bah, j'ai mon pote avec qui je me suis lancé, Augustin, qui est lui qui a fait sa première bière pour la vendre récemment. Là.
Ok.
Mais lui, son projet, c'est maraîchage, cidre. On fait du cidre ensemble.
D'accord.
Et la bière en plus, quoi. Tu vois, ouais. L'hiver en période creuse, etc.
Ouais, ouais, mais il est pas loin.
Lui,
du...
jamais voulu faire un truc. C'est vraiment lancer une brasserie. Ouais. C'est plus un complément.
Mais il y a eu une synergie quand même où vous êtes tous mis là-dedans et ça vous a tous un peu.
Ouais. Ouais, bah, enfin, en tout cas, non, on était vraiment que deux à faire ça.
Ouais. Les autres, ils picolaient.
Ouais, c'est ça. Bon, on avait besoin d'eux aussi.
Ouais, ouais, c'est ça.
Ouais. Non, mais après. Après, le côté un peu moins cool quand t'es brasseur amateur, je trouve, dans une coloc comme ça, c'est que quand tu fais une bonne bière, tout le monde la boit. Quand tu fais une bière moins ouf et que t'as pas envie de jeter la bière moins ouf quand même,
ouais, ouais.
Tu te dis, oh, je vais la boire moi-même. Et du coup, tu bois que de la bière pas trop pas terrible. Tu bois jamais les meilleures.
Ouais, ouais. Oui,
donc,
ouais.
Ouais, bon, c'est un peu le côté négatif.
Mais... Et t'as assez rapidement eu l'idée d'en faire un truc pro, enfin, est-ce que ça t'est venu direct ou au début tu brassais vraiment pour ta propre conso et tu t'étais pas encore trop posé la question de qu'est-ce que je vais faire de cette bière?
Comment c'est venu le moment
Bah, après je pense que c'est comme à beaucoup de brasseurs amateurs, mais il y a toujours un moment où tu te dis ah c'est trop bien, j'ai envie de faire ça tout le temps, si je vendais ma bière je ferais genre 3€ par bouteille, tu fais tes calculs vite fait sur Excel, tu te dis putain en fait je peux être riche en brassant 20 litres quoi. Et après bon tu comprends que c'est pas si simple que ça,
ouais.
Mais ouais, enfin je me suis toujours dit bon ça a rien à voir avec mes études et avec ce que je fais comme travail, mais si je pouvais faire ça toute la journée ce serait cool quoi.
Ouais.
Et ouais, après, ça m'a trotté dans la tête un peu d'ouvrir une brasserie quand même.
Mm.
En fait, j'ai eu plusieurs occasions d'ouvrir une brasserie. Et en fait, j'ai laissé un peu filer le truc en me disant, ouais, j'attends, je vais voir.
Ouais.
Et à chaque fois, je me suis dit, bah, j'ai bien fait de pas le faire à ce moment-là, tu vois, enfin, de prendre le temps. Puis il y a un moment où je me suis dit, ouvre pas une boîte sans avoir jamais fait le métier que tu vas faire.
Oui.
Enfin, tu vois,
ouais, tu voulais
pas une boulangerie sans avoir été boulanger, ce genre de truc. Et du coup, ouais. Je me suis dit un peu ça en me disant, bah, j'ai un peu.
Je vais faire ça.
Bah, Robin, Robin, c'est l'inverse. Ouais, c'est...
Non, mais après, ouais. Je me suis dit, j'ai un peu loupé le coche. Tu vois, si on était en 2014 et que j'avais brassé déjà depuis 4 ans, peut-être, tu vois, j'aurais.
Là, bah, t'aurais pu être super legit à ouvrir un truc.
Ouais, enfin, tu vois, ça aurait été le bon moment. Quoi, mais, en fait, quand il y a autant de gens qui ont lancé leur brasserie. La plus-value que tu peux avoir, c'est d'avoir un peu vu comment ça se passe aussi, ouais. Sur une brasserie pro, quoi.
Mmh. Bah, la preuve, hein.
Ouais.
Et donc, à quel moment est-ce que t'as passé le pas de quitter ton taf pour devenir brasseur?
Pendant le Covid, en tout cas, pendant le confinement, là, c'était la période où, du coup, j'étais... On était en coloc dans la petite maison de campagne, du coup j'ai plutôt bien vécu moi, genre vraiment à brasser tout le temps sans arrêt. Quoi.
Ah, la folie.
Je crois que le confinement ça a poussé beaucoup de monde à finalement faire que brasser quoi.
Ouais, mais c'était ça aussi. À aller vers les métiers qui nous plaisent aussi, tu vois. Et puis il y a eu ça, et puis le fait de passer en télétravail, machin, enfin. Du coup, t'as...
Ton suivi de fermentation, il est plus que en Wi-Fi, il est en réel,
il est
quoi.
En réel. Ouais. Non, mais t'avais un peu une période après le Covid où vraiment tu te dis, bon, en fait, ce qui me fait plaisir, c'est de brasser, quoi. Donc, j'ai un peu après ça, du coup, en 2021, où je me suis dit, bah, écoute, vas-y, arrête ton taf, essaie de faire une formation, fais des stages si tu peux.
Ouais.
Et puis trouver un taf, quoi.
Trop bien.
Et puis c'était un moment où tous mes potes de là-bas étaient un peu allés à droite à gauche. Bah, Augustin était allé faire son projet de maraîchage ailleurs, etc. Donc, je me suis dit, vas-y, je fais autre chose, quoi.
Ouais.
Bah, je me lance.
Et t'as trouvé rapidement?
J'ai trouvé... Bah, en fait, moi, j'avais un plan où, genre, je quitte mon taf. Je fais un premier stage d'une façon ou d'une autre dans une brasserie. Donc, avec Pôle emploi, tu peux faire des stages jusqu'à 3 semaines, un mois.
Mmh.
Donc, stage un peu découverte du métier pour...
T'as fait un stage avant la formation?
Ouais.
Okay.
J'ai fait un stage avant la formation chez Hoprock. Donc, c'est une brasserie HSI. Et du coup, c'est Pôle emploi qui te permet d'avoir une convention de stage. Parce que normalement, théoriquement, si t'as pas de convention, tu peux pas faire de stage. Quoi.
Ouais. Mmh.
Donc, j'ai fait ça. Du coup, c'était cool de voir... Tu vois, c'était une brasserie en fait, qui est à peu près de la même taille qu'ici maintenant. Donc, enfin non, mais plus petit, puisqu'il y avait 4 fermenteurs de 10 hecto. C'était en atmo, c'était voilà, plein de styles de bière, c'était bien fait, franchement, c'était cool. Après, le côté un peu... Avant, j'avais un métier, tu vois, que je connaissais bien, ça faisait 6 ans que j'étais dans la boîte et tout. Là, t'arrives, t'es stagiaire.
Ouais.
En mode pas observation, tu sais, tu fais des trucs, mais t'es un peu empoté quoi, au début. Quand tu rentres dans une brasserie, t'es là, ok, j'essaie de pas faire trop de conneries, tu vois.
Ouais.
Ça fait bizarre quand même. Ouais. Mais après, ça vient vite en fait. C'est juste les. Mais
moi, je pense que c'est normal, hein. Enfin, surtout un métier très manuel comme ça.
Ce que t'as ça aussi sur. Parce que oui, on l'a annoncé dans le podcast, t'as changé de taf aussi.
Ah bah, voilà,
j'ai demandé, t'as un peu ce côté-là
c'est
aussi.
C'est drôle que tu dis ça, parce que moi, je me suis revu il y a un mois, être là. T'as au milieu de gens qui connaissent leur taf et toi, t'apprends quoi. Donc forcément, t'as peur d'être un boulet, mais au final, je pense que ça va. Tu vois, si.
Ouais, mais enfin, je pense que t'as peur de faire des conneries, au final, t'en fais aussi.
Oui.
Et puis, tu sais, c'est tous les process qu'on t'explique. Genre, je sais pas, le nettoyage de l'embouteilleuse, il va te montrer 40 étapes et tout. Toi, tu te dis, j'ai compris. La deuxième fois qu'il te montre, tu te dis, ouais, c'est bon, j'ai compris. Enfin, ok. Et quand tu le fais la première fois, en fait, tu sais pas faire parce que. Tu sais, c'est comme quand on te montre comment faire un nœud, quoi.
Ah ouais.
T'as l'impression que c'est facile, en fait, tu le fais toi-même, bah non, t'y arrives pas. Ouais. Donc, t'es vraiment là en mode, putain, je suis un peu empoté.
Oui, après, ça prend du temps, il y a de la répétition aussi à faire avant d'avoir...
Mais c'est cool de le garder en tête, parce que du coup, quand tu connais ton métier, après, ça te paraît naturel de bosser dans une pièce avec des tanks de 60 hectos partout, tu vois. Mais tu te mets un peu à la place du stagiaire ou du nouveau qui a pas l'habitude, quoi.
Ouais.
Et c'est marrant ce que tu racontes parce que du coup toi t'as eu un peu cette étape avec ce gros décalage de d'amateur à bim dans une grosse brasserie. Enfin dans une brasserie.
Ouais, là c'était pas si gros que ça.
Non mais c'était quand même.
Ouais.
Tu vois genre nous, enfin moi et Pépé, on a eu ce truc de passer du Grain Phaser au Brew Tools. Et en fait on a fait que prendre des petites connaissances en plus à chaque fois.
Ouais.
Mais il y a jamais eu le truc de de gros gap, tu vois.
Ouais.
Du coup, le matos c'était au début un peu similaire, puis après on achetait la petite embouteilleuse. Bon, ça ressemblait à notre canne de soutirage, mais avec un système de cuvette qui faisait levier. Et ensuite, on a changé les trucs, on a rajouté les pompes. Et en fait, en améliorant petit à petit, nous on n'a pas eu ce. Enfin, peut-être un peu avec la Danican où à un moment c'était plus technique parce qu'il y avait un peu d'électronique et tout ça, mais. J'ai du mal à voir ce truc et je me dis, mais ouais, ça doit être ouf de passer de genre. Ta petite casserole plus à d'un coup des cuves.
Je pense que
ça doit faire un peu peur les premiers jours. Je
après,
pense
c'est
que
différent. Tu vois, quand tu fais un stage ou quand tu commences un boulot dans une brasserie, t'as pas la responsabilité de te dire si ça tombe en panne, personne va t'aider.
Ouais.
Et te dire, c'est à toi de faire les process, de les écrire. Tu vois.
Ouais.
Donc, c'est déjà fait en fait. Donc, faut suivre les process et. Ah oui. Et finalement, c'est pas beaucoup plus différent que de bosser dans n'importe quelle autre boîte.
Ouais, je vois.
Où il y a déjà des process établis. Quoi.
Oui, c'est vrai que t'as quand même quelqu'un à qui te référer. Et nous, on a été un peu dans le truc de si c'est trop compliqué, on est tout seul. Quoi. Enfin, il y a YouTube et Facebook comme d'hab, mais.
Mais c'est différent.
Oui, et puis ça vous impacte directement. Il y a personne qui va venir vous sauver le cul. Enfin.
Ah, c'est ça.
Ouais, donc ça doit être assez rassurant quand même. Enfin, au moins tu sais que t'as un cadre qui est correct pour apprendre quoi. Après, évidemment, t'as envie de bien faire et t'as pas envie de faire des conneries. Mais t'as quand même ce truc de si je galère, je peux toujours poser une question, on va me répondre,
C'est clair. Bah, en stage, t'as vraiment aucune responsabilité. Quand t'es salarié, t'en as un peu plus, hein, mais bon, c'est pas ta boîte. Ah, merde, qu'est-ce que je suis en train de dire? Mais bon, c'est pas ta boîte, quoi. Si tu pars avoir ça, tant pis.
Ouais.
Non, mais c'est. Bah, tu joues pas ta boîte, quoi.
Ouais.
Donc, c'est différent.
Et donc, après, j'allais dire études, mais formation.
T'étais et donc, après, formation, ouais. Donc, formation IFBM.
Trop bien.
Titre brasseur. Et du coup, le fait d'avoir fait le stage chez Pôle emploi, ça m'a permis de me le faire financer. Enfin. Je sais plus si c'est finançable maintenant par Pôle emploi ou CPF, c'est l'IFBM, je crois que c'est éligible au CPF. Mais en fait, à l'époque, Pôle emploi, un coup sur deux, ils ne te le validaient pas. Quoi.
Okay.
Et là, le fait que j'avais fait ce truc-là, ça a plutôt joué en ma faveur, donc c'était cool.
Et est-ce que tu as trouvé ça bien de faire ta formation en ayant déjà été dans une grosse brasserie?
Ouais, carrément.
C'est un truc que tu conseillerais aux gens de...
Ouais, complètement, ouais. Ouais. Bah oui, forcément, du coup, c'est un peu plus palpable quoi, ce que tu apprends.
Okay.
Même si c'est qu'un mois et que, bon... C'est pas tant que ça, quoi, mais au moins t'as
autre
chose.
T'as fait un mois de formation
Non, non, un mois de stage. Un mois de stage et après. Et après, c'est 3 semaines d'information, ouais.
Ok.
Mais le truc.
Oui, quand on te parle d'un truc, c'est pas juste un nom, une idée conceptuelle. Enfin, au moins, tu as un souvenir, tu sais à quoi ça ressemble, tu l'as déjà vu.
Ouais, puis ce qui est super intéressant aussi, c'est que du coup, on t'apprend des trucs et toi, tu te rappelles qu'on faisait par exemple soit comme ça, soit pas comme ça à la brasserie. Ouais. Et tu peux dire, ah, c'est marrant, moi, je faisais autrement, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Et voilà, ça permet de confronter un peu ce qu'on te raconte. Quoi.
Oui. Oui, oui, ça c'est cool. Puis d'avoir c'est une mise en perspective de ah bon, bah bon, ça a l'air d'être une des manières de faire, mais peut-être que c'est pas forcément.
Ouais. Enfin, tu gobes pas tout. Il y a plusieurs manières de faire aussi. Ouais. Donc c'est ça qui est cool aussi, parce que dans une formation, souvent on t'apprend des choses, mais faut se rendre compte aussi que tu peux faire autrement.
Ouais, bah surtout dans un métier comme ça.
Et dans quelle mesure tu peux faire autrement, tu vois.
Oui, c'est ça. Et puis c'est pas une science dure, c'est pas une science exacte, comme on va t'expliquer des maths ou de la physique où c'est comme ça. Non, mais tu vois, c'est.
Bah, un peu quand même.
Oui, mais non, mais sur la manière de
c'est de la chimie. Après, c'est particulier. Tu vois, la formation, du coup, moi je l'ai fait donc sur 3 semaines, l'IFBM. Et en fait, je m'étais beaucoup renseigné avant quand même. Donc tout ce qui était théorie, ce que je disais au début, j'avais lu plein de trucs contradictoires. Donc à la fin, tu sais plus trop quoi penser. Et puis au final, tu commences à affiner un peu le vrai du faux. Et tu fais un peu le tri sur ce qu'on te raconte. Quoi. Quand quelqu'un te dit un truc qui te paraît complètement aberrant, plutôt que de juste le croire, t'as un peu confiance à ce que t'as appris avant et du coup tu peux confronter le truc.
Ouais.
Et du coup je suis arrivé à l'IFBM, franchement je savais pas mal de trucs, mais ce qui est rassurant là-bas c'est que tu sais que les pros du secteur, ils en sont là, tu vois.
Ouais,
ils en sont là sur le truc. Mais ce qui est intéressant dans le brassage aussi, c'est que ça va tellement vite, les nouvelles techniques, notamment sur les IPA, ce genre de choses, et puis sur plein d'autres sujets, on fait plein de découvertes en fait, et du coup, les gens très pros, qui s'y connaissent bien il y a 10 ans, ils peuvent apprendre des trucs même d'amateurs. Franchement, les brasseurs amateurs, ça fait partie des brasseurs les plus pointus actuellement, parce qu'ils sont capables de tester plein de trucs. Et puis ils sont toujours à la pointe des recherches. Quoi.
Une flexibilité que t'as pas forcément en pro.
Ouais.
Et tu peux, si tu veux, mettre X milliers de grammes par litre, tu t'en fous, tu vois, ou t'as pas la rentabilité en tête, tu peux prendre le risque de rater un brassin, c'est pas grave, tu vois.
Oui.
Mais c'est marrant ce que tu dis aussi, parce qu'il y a un côté où, donc moi, je dans ma tête, j'ai toujours ce truc de, je suis un peu amateur et je continue à apprendre et j'ai pas, j'ai encore plein d'incertitudes sur beaucoup de choses, tu vois. Et notamment, t'as des trucs où j'ai l'impression que personne n'est d'accord encore aujourd'hui sur, si on prend un exemple, c'est l'oxydation à chaud. Je sais pas, d'ailleurs, les auditeurs, s'il y en a qui pensent que oxydation à chaud, vérité ou pas, genre j'ai l'impression que c'est un gros débat.
C'est quoi là qui est
tu peux oxyder ta bière pendant l'empattage, notamment pendant le rinçage des drèches, ou à d'autres étapes, en mettant de l'oxygène dans le moût de bière. Ça c'est le genre de truc, mais il y a pas que ça, il y en a plein où j'ai l'impression qu'il y a pas encore de réponse à toutes les questions et qu'il y a quand même débat.
Ouais, en fait souvent t'as quand même pas mal d'études sur les process de brassage, et en fait tu vas toujours avoir une guéguerre entre le scientifique qui a prouvé qu'il y avait un impact et l'amateur. Tu vois, je sais pas si tu connais Brulosophie par exemple.
Non.
C'est un blog où en fait ils font 2 brassins comparés.
Okay.
Ils changent un petit détail sur chaque brassin. Donc par exemple, ils font un brassin normal et un brassin où pendant l'ébullition, je dis une connerie, mais ils vont mélanger à fond pour oxyder le truc. Mm-hmm. Et puis après, ils vont comparer en faisant un panel pour voir si vraiment ça a un impact ou pas. Donc c'est à peu près de la méthode scientifique, mais tu vois, tu vas pas chercher au microscope si ça a un impact ou pas.
Ouais.
Et en fait, souvent, ces expériences-là, ils se rendent compte que ça n'a pas d'impact, alors que scientifiquement, il y en a eu un, tu vois.
Ok, ouais. D'accord.
Donc il y a toujours un peu ce côté-là, soit t'es vraiment chimiste, et à ce moment-là, oui, t'as un intérêt d'éviter ça, soit t'es amateur et tu t'en fous, quoi.
Ok. Mmh. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a plein de process aussi, on se dit, est-ce que ça, c'est utile de le faire ou pas, on en parlait avec Plombé aussi, Nico du Plombé, il y a plein de trucs où en fait on se pose la question de, il paraît que ça fait ça si tu fais pas ça, et donc tu sais pas trop.
Ça vaudrait le coup d'avoir une espèce de petit labo, tu vois, avec une toute petite ligne, enfin tu vois.
Ouais.
Mais c'est là où c'est intéressant, quand que tu sois amateur ou pro, t'as toujours, soit tu rentres vraiment dans le côté scientifique et tu vas chercher à prouver chaque hypothèse que tu peux avoir sur le brassage. Soit tu fais un peu au savoir-faire et tu te dis, bah, moi je fais comme ça, j'ai des bons résultats, et du coup, tu sais, c'est comme en cuisine, quoi. Soit tu mesures le pH de ta préparation, soit tu dis, ah, je touille, ça a la bonne consistance, je goûte, ça, c'est bon, et puis voilà, j'ai toujours fait comme ça.
Ouais. Moi, je suis méthode 2.
T'es méthode 2 ?
Ouais, moi j'ai toujours été.
Si tu viens de te voir faire ton café là.
Ah oui, 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 non, ouais, ouais.
Alors, bon, à 80 degrés pile, ça dépend sur quoi, je trouve.
Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, mais ouais, bah là, par exemple, ce soir, on va manger des pizzas et j'ai oublié de prendre la température de la pièce où à faire monter la pâte à pizza et j'étais en mode merde.
Disons, je pense que c'est bien de préparer en essayant de se tenir. Ne serait-ce que pour avoir un résultat qui soit pas trop aléatoire, de se tenir quand même à des facteurs bien précis et être capable de lâcher un peu la rampe si jamais il y a quelque chose qui t'a échappé mais que le résultat te convient, tu vois, réussir à.
Je trouve qu'il y a du pour dans les deux trucs. Il faut. Faut pas que le fait d'être trop scientifique et d'avoir besoin d'une valeur sur chaque chose t'empêche d'avoir un ressenti avec ce que tu es en train de faire. Tu vois.
Ouais, éventuellement, de sortir un petit peu de la.
T'as des outils qui te permettent de savoir, de connaître la turbidité de ta bière. Donc à quel point elle est transparente. Et ça te donne un numéro en FTU, machin. Donc tu te dis, ma bière a fait 100 FTU, très bien. Mais il faut que tu la regardes aussi pour, tu vois, pour avoir une idée de ce que c'est. Pour, et si tu restes vraiment que sur les valeurs, des fois, t'en perds un peu. Tu mets un peu de distance avec ce que tu fais. Quoi.
Ouais. Donc, c'est vrai. Intéressant. Grave. Mais d'où je pense que c'est de là qu'on partait, d'où l'intérêt d'avoir fait un stage avant de commencer l'apprentissage purement théorique. Je pense que ça te permet aussi de pas apprendre tout ce que t'as à apprendre sur la bière de manière conceptuelle. On va te donner un process, des méthodes, des trucs à suivre, où au moins tu sais que où t'as pu le confronter et t'as pu un peu avoir une idée du résultat de...
Et du coup, après cette formation, qu'est-ce que t'as fait ? T'as tout plaqué et t'es reparti dans les télécoms.
pas trop. Non, du coup, après, j'ai cherché un stage parce que à la fin du titre brasseur, il faut faire un stage.
Et du coup, à ce moment-là, t'étais déjà en mode trop bien, genre t'étais trop content du truc ou à aucun moment t'as eu un doute en mode merde, est-ce que là je suis en train de.
Ouais, t'étais conforté dans ton idée de faire du brassage ?
Le seul doute que j'avais, je me disais, putain, j'espère que je vais trouver du boulot, quoi. Parce qu'il y avait tellement de gens qui faisaient pareil.
Ouais.
Que je me suis dit, waouh, wow, va falloir que je trouve vite. Mais sinon, non, sur le métier, pas du tout. Franchement, c'était super formation, j'ai appris plein de trucs. Ça reste très théorique, mais franchement, t'es rodé après sur la théorie avec ça, quoi. Et du coup, après, j'ai cherché un stage. Donc, je m'étais fait ma liste de brasseries. Que je voulais, dans lesquels je voulais aller, quoi. J'avais pas trop de limites géographiques.
T'étais toujours en Normandie à ce moment-là ?
Non, du coup, j'étais rentré chez mes parents à Orléans.
Ok.
Et du coup, l'IFBM, c'est à Nancy.
D'accord.
Donc j'ai fait 3 semaines là-bas. Et après, je me suis dit, bah vas-y, prends-toi la France entière.
Ouais.
Okay. Voir plus loin, j'aurais bien aimé, mais c'était plus compliqué, quoi. Et du coup, je me suis fait une liste de brasseries qui me paraissaient cool et dans lesquelles j'avais envie de travailler, quoi. Et du coup, j'ai fait mon stage chez Thirier, dans le Nord, Esquelbecq. Ce qui est une super brasserie très réputée. Hein, ça fait partie des premières brasseries craft de France.
Ouais.
Ça a pesé dans le CV. qui a toute une histoire avec beaucoup de collabs avec des grandes brasseries américaines, canadiennes, anglaises, tout ça. Qui ont leur propre souche de levure, qui réutilisent leur levure, etc. Vraiment parce qu'ils sont très cotés internationalement aussi.
Ouais. Réutilisation des levures. Ça fait longtemps qu'on en parle. Depuis même Fernando, on avait fait un live Insta, on parlait de ça. J'avoue que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah mais trop bien.
Ouais.
J'ai trop envie d'apprendre à faire ça.
Ouais, oui, on verra plus tard.
Ouais. Et combien de temps le stage ?
C'est un mois du coup, avec l'IFBM. Et du coup, tu confrontes un peu ce que tu as appris. En même temps, dans ce genre de brasserie, t'écoutes. Parce que ça fait 25 ans qu'ils font ça, donc t'as pas envie de leur dire « Non, allez, je pense pas qu'ils vont faire ça. » Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir comparer brasserie A avec brasserie B. C'est pas les mêmes process. C'est tes deux brasseries en atmosphérique, donc pas avec des cuves isobarométriques. Et pour le coup, ils n'avaient pas les mêmes process sur le nettoyage, notamment, sur ce genre de choses. Donc pas les mêmes bières à la fin. Et c'est super intéressant de voir comment ça se déroule, quoi.
Trop bien. Et donc, à la fin de ce stage...
J'ai cherché du boulot. Pas de limite géographique.
Ouais.
J'ai trouvé dans le Morvan, en tout cas dans le nord du Morvan, à la brasserie de Vézelay.
Ouais.
Donc où j'avais trouvé un poste de brasseur. Et donc c'est une brasserie qui est implantée près de Vézelay, qui est je crois le premier village touristique en Bourgogne. Donc ça draine pas mal de monde. Et c'est un peu excentré, mais c'est vraiment proche d'une rivière avec une boutique, un bar, une terrasse, brewpub, etc. Enfin, ou plus taproom, je sais pas.
On était passé une fois vite fait, je crois.
Ouais, même peut-être plusieurs fois, je pense, je sais pas.
Ouais,
En tout cas, ouais, Vézelay, c'était mon petit pèlerinage en venant dans le Morvan. Hein,
ouais.
C'est vrai que.
Bah, l'endroit est vraiment chouette, quoi. Et enfin, c'est surtout l'été, en fait, parce que t'as pas mal de touristes, et puis fait beau, t'as
le bar, tu te poses,
vraiment c'est chouette. Et pour le coup, c'est une brasserie qui est vraiment bien faite.
Ouais.
C'est une brasserie qui a évolué petit à petit, ça doit avoir 12 ans maintenant, et ça a commencé tout petit.
C'est vrai que c'était une des... Même avant que je m'intéresse beaucoup à la bière, c'était une des brasseries... après, bah, du fait que je venais en vacances ici... sur lesquels je m'étais penché, je vais pas dire c'est mes premières bières hors bière belge, tu vois, mais tu vois, à cette époque où on aimait bien la bière mais on n'était pas du tout dans le craft, c'est une de mes premières expériences bière autre que les Belges Indus,
oui, ouais,
tu vois, cette étape avant le craft et
Mais du coup, c'est une brasserie qui est super bien située, c'est bien fait dans la disposition et tout. Enfin, c'est vraiment confort de bosser là-bas.
Ouais.
Et du coup, le poste, c'était vraiment brasseur, par contre.
Okay. Donc,
je faisais que du brassage. Il n'y avait pas la partie embouteillage.
Ouais.
Tu vois, enfin...
Ce qui est plutôt bien, non ?
Enfin, oui et non, mais je dirais plutôt non, parce que moi, ce qui me plaît, c'est d'avoir une vue sur tout le produit, tu vois. Sur tout le parcours de la bière.
Tu fais aussi des suivis de fermentation ?
Ouais. Tout ce qui est partie chaude et froide, du coup.
Ouais.
Mais t'as pas la perte du conditionnement, puis enfin, logistique.
Je voyais ça comme un truc un peu rébarbatif, mais toi, du coup, ça t'a emmerdé parce que t'avais un job plus répétitif et que du coup, tu pouvais pas varier, entre guillemets, le...
C'est ça. Après, du coup, il y a du bon parce que c'est quand même assez intense. Hein, c'est 3 à 4 brassins par jour.
Ouais.
Donc, c'est des trucs, ça envoie, quoi. Et quand t'es brasseur, du coup, t'as une... Enfin, je sais pas combien j'ai brassé de bière là-bas, mais j'ai peut-être fait 800 brassins, tu vois.
Ah ouais.
J'en sais rien. Mais du coup, tu fais toujours la même chose, mais... D'un côté, tu peux aussi changer des petits trucs, etc.
Ouais.
Et puis comparer tel brassin avec tel brassin... Et t'as une quantité de données là-bas, c'est impressionnant. Si ça t'intéresse de creuser, tu peux vraiment t'amuser à chercher un peu quel impact a tel changement de process, etc.
Et toi, t'avais la possibilité d'avoir un peu cette prise d'initiative qui te permettait éventuellement de corriger une petite chose ou...
C'est là où c'était plus compliqué, c'est qu'en fait, t'as un système de prise de décision que moi je trouvais trop lourd, tu vois.
Ouais.
Donc, dès que tu as une idée, il faut la faire valider, etc. Donc, c'est pour ça que c'était un peu le côté, moi, qui me plaisait moins dans ce type de plus grosse brasserie.
Mm-hmm.
Et c'est ce qui m'a donné envie d'aller vers plus petit, tu vois.
Ouais.
Où là, t'as... En fait, la brasserie de Vézelay, ça appartient à un groupe qui est en Bretagne. Et donc, du coup, les décideurs sont plutôt là-bas pour tout ce qui est changement de recettes, création de nouvelles recettes, etc. Donc, tu fais des tests, tu dois les envoyer là-bas, t'attends un retour, etc. Et toutes ces étapes-là, ça fait quand même une petite lourdeur,
ouais,
qui fait que c'est bien aussi d'avoir un truc où tu fais un test, tu goûtes, ça te plaît, tu le fais en propre.
Il n'y a pas l'esprit craft de spontanéité, de renouvellement, etc.
Moins, après, c'est de la bière artisanale, mais ce n'est pas le côté craft que tu peux avoir ailleurs, parce que, par exemple, c'est beaucoup vendu au supermarché, et en fait, les supermarchés, si tu fais une bière éphémère, ils s'en foutent. Enfin, tu vois, il n'y a pas la place en fait. Donc, ouais. Ils sont très contents pour toi, mais ils vont pas te la prendre. Donc en fait, tu fais pas de bière éphémère et tu restes sur tes recettes. Donc c'est différent.
Quoi. Ouais.
Après, du coup, tu avais quand même du beau matos pour t'amuser.
Oui, parce que c'est la plus grosse brasserie dans laquelle t'es bossé ou...
Ouais, bah oui, du coup, ouais, d'assez loin. Ouais.
C'est la plus grosse brasserie du coin aussi, hein. Clairement.
Ouais, bah après, je sais pas. Dans Lyon, il y a Fire, il y a Popin. Popin, je sais pas si c'est peut-être plus petit.
Popin, c'est plus petit que Vézelay, je pense.
Mais ouais, du coup, c'est du beau matos. Hein. C'est Kaspar Schulz. C'est vraiment automatisé. Les tanks, ils sont beaux, mais en fait, on a les mêmes maintenant. Donc,
oui. Donc, ils sont pas allemands, mais.
Ils sont pas allemands, mais écoute, ils sont pareils. Hein. Cylindre conique, ISO et double paroi, c'est pas grave. C'est bon.
Ils sont plus récents, peut-être.
Ouais, par contre, ça coûte moins cher de changer un joint.
Ça coûte moins cher de changer un joint, c'est vrai. Donc, ouais, c'est comme t'as une BM ou t'as une Toyota, l'entretien, c'est pas le même.
Ouais, c'est clair.
Ouais. Mais du coup, ouais, tu te retrouves avec une salle de brassage full auto qui commence ton brassin à 2h du matin. Toi, t'arrives à 6h du matin. Ah, et le deuxième brassin est déjà commencé.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais. Donc, toi, t'arrives pour la filtration, pour le suivi de filtration et tout. Donc, ça n'a rien à voir.
Ouais.
Donc, en fait, 60% du boulot.
Ça m'a surpris, ouais. En fait, tu bosses avec un ordi, quoi.
En fait, c'est comme un gros ordinateur.
C'est un ordinateur, ouais.
Mais à la fin, t'as pas un fichier, t'as un brassin.
Ouais, ouais, c'est ça.
Tu te sors une bière à la fin.
C'est loup.
Ouais. Mais du coup, ça change vraiment de métier de brasseur artisanal en petite quantité, quoi.
T'as mis du temps à t'habituer en arrivant là-bas? T'as eu quand même beaucoup de choses à apprendre.
Ouais,
ou
t'as quand même pas mal de trucs. Tu mets 2-3 mois à être autonome, quoi.
Ouais.
Mais après, ça roule.
Et du coup, tu disais, il y avait 3 brasseurs à la base.
Au début, on était 2 brasseurs, une responsable qualité, ouais. Du coup, ça permet de prendre la main gentiment. Et après, t'es un peu en 2-8. Enfin, ça dépend de l'activité du truc, quoi.
Ouais.
C'était des horaires un peu comme ça en décalé, ouais. Mais ouais, c'est assez intense. Hein.
Mmh.
Et t'as beaucoup de boulot de suivi de fermentation, de dry hop, de tous ces trucs-là. En fait, t'as beaucoup de travail sur les fermenteurs et un peu moins sur la salle de brassage.
Mmh. Ouais.
Ouais, du coup, le fait que ce soit automatisé aussi te permet de bien dégager du temps pour faire tous tes suivis de fermentation. Même si tu brassais plusieurs fois par jour, tu avais quand même le temps de t'occuper de tout ça. Ce qui n'est pas forcément le cas quand tu brasses sur un Brewtools ou sur du matos. Enfin, encore le Brewtools, ça va. Nous, on faisait quand même embouteillage plus brassage en même temps, ce qui était quand même, avec le recul, un peu n'importe quoi, mais... Ça marchait, mais ouais, tu sur des trucs moins automatisés, t'es plus focus sur des tâches, dédrécher, faire.
Ouais, c'est ça. C'est ça, centrifugation, tu vois, gérer la saturation aussi, enfin, tous ces trucs-là, qui prennent pas mal de temps. Enfin, tu vois, il y a 21 fermenteurs, donc ça te prend un peu de temps, quoi.
Ouais. 21 fermenteurs qui faisaient entre quelle taille et quelle taille?
Entre 30 et 60 hectos.
Entre 30 et 60 hectares, ouais. C'est vrai qu'il y a une petite forêt de fermenteurs, tu peux te balader comme ça, c'est assez marrant, sur plusieurs rangées, tout est très clean. Hein. Ça m'a surpris là-bas aussi,
C'est
le niveau
cool.
De propreté est supérieur à beaucoup de brasseries, je trouve.
Bah ça, c'est, franchement, ça m'a bien incité aussi à aller là-bas, parce que je me suis dit, tu vois, le niveau de propreté, c'est genre un truc, faut que tu aies un niveau de standard haut. Parce que si tu commences dans une brasserie crade, après tu vas t'y faire, t'habituer à ce truc-là. Donc autant que ce soit clean à début, et c'est vrai que Vézelay, c'est vraiment clean. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc au bout de 2 ans, bah ouais, finalement, tes standards, c'est ça, quoi, maintenant.
Et c'est vrai que je ne sais plus qui j'avais rencontré, mais j'ai déjà entendu plusieurs fois des gens me dire, ouais, Vézelay, c'est... Genre, c'est très clean, quoi.
Ouais.
C'est réputé dans le milieu des gens qui sont passés par là. Ouais, c'est très clean.
Donc, c'est clean et c'est bien conçu. Enfin, tu vois, t'as de la place pour bosser. T'es pas le sol glisse pas. T'as pas besoin d'enjamber des tuyaux sans arrêt.
Ouais.
Donc, c'est confort, quoi. Franchement, c'est cool.
Ouais, puis je pense que c'est ouais, une bonne école du coup. Enfin, t'apprends ouais. directement, comme tu dis.
Et t'as, à travers du coup l'expérience chez Vézelay, eu l'opportunité aussi de voir d'autres brasseries un peu.
Ouais, ouais, j'ai fait un remplacement à la brasserie artisanale du Sud. Je suis allé voir en brasserie de Bretagne aussi.
Ouais, parce que comme du coup c'est un groupe, il y a plusieurs brasseries dans le truc et ça c'est cool. T'as pu voir aussi du coup encore d'autres.
Ouais, brasserie de Bretagne qui est énorme en fait. C'est une brasserie qui fait Brit, Saint-Erwan, etc.
Saint-Erwan,
Saint-Erwan, Dremwell et Armen, je sais plus. Et du coup, c'est une grande brasserie qui est en atmosphérique, tu vois, qui est en recyclage en bouteille.
Ça, c'est fou.
Donc, c'est un truc, tu vois, t'as une énorme chambre chaude. Ouais. Et c'est complètement d'autres process. Ça, c'est super intéressant de voir ça. Et pareil, du coup, tu peux voir un peu comment ils font le contrôle qualité là-bas. Et c'est super. C'est inestimable, en fait, de pouvoir voir ça sur une brasserie aussi grosse.
Ouais.
Tu vois, de pouvoir avoir une vue là-dessus.
En termes de taille des fermenteurs et tout, c'était quoi
Bah, je sais plus combien c'était, mais les brassins c'était du 100 hecto.
Ah ouais, ok.
Et après, je
100 hecto par brassin.
Mais je me demande s'ils mettaient pas 4 brassins, je sais plus, dans les fermenteurs, mais ouais.
C'est immense. Ils étaient tous en intérieur ou du coup c'est des fermenteurs
Non, t'en avais à l'extérieur.
Ouais. Ah ouais, ouais. Oh, ah, ça doit être immense.
Ouais. Ah ouais, mais c'est. Et tu verrais les systèmes de...
C'est Indus, du coup, ou...
Bah, je sais pas, la limite, elle est...
Ouais, c'est toujours ça, mais
si
là...
Si tu dis 200 000 hecto par an, c'est pas Indus.
Ouais, c'est ça. Mais ouais, ça t'es quand même...
Oh, tu avais fait un épisode là-dessus sur...
Indus, pas Indus. Non, je crois pas.
C'est marrant d'en faire un.
Ouais.
Parce que ça, c'est un gros débat. Mais en fait, tu demandes à n'importe quel patron de brasserie...
S'il est Indus,
il va dire ah non, nous on est à taille humaine, tu vois, mais peu importe si tu t'appelles Henken ou si tu brasses sur un Brutus, quoi.
Ouais.
Faudrait un barème objectif.
Ouais.
Tu remplis et à la fin ça te dit si t'es Indus ou pas, tu
vois. Oui. Et puis est-ce que ça dépend que de la taille ou de la provenance des fonds
Est-ce que t'es ton propre actionnaire?
Mais c'est. Il y avait eu Sirop de Loublon, je crois. Il y a eu un épisode de podcast comme ça.
Ça me dit un truc.
Et qui était hyper intéressant, qui disait par exemple que si le patron est brasseur, du coup t'es plus craft que si t'es financier. Tu vois.
Ouais.
Déjà, juste ta cravate à vérifier. Ouais.
Est-ce que t'es indépendant? Est-ce que t'es.
Puis quelles sont tes méthodes aussi? Enfin, est-ce que tu travailles de l'extrait de houblon? Est-ce que tu. Enfin, qui sont tes fournisseurs?
Je pense qu'il y a un côté quantité, tu vois. Mais pour moi, la quantité fait pas que tu deviens Indus. C'est plus. Quand tu fais de la quantité, t'es moins indépendant.
Ouais.
T'es moins brasseur en général quand t'es patron. Et puis aussi, qu'est-ce que ça veut dire être indépendant? Est-ce que ça veut dire être acheté par une autre boîte? Ou est-ce que ça veut dire être blindé de dettes? Et du coup, de ne pas avoir le choix que de ressortir des bières dont tu n'es pas satisfait et tu as toujours la fuite en avant, quoi.
Oui, effectivement, plus tu produis en volume, plus tu es quand même amené à avoir ce genre de dérive, quoi.
Et puis,
un peu ce qu'on disait avec IKEA.
Ouais, grave, on en parlait hier avec Benjamin parce que j'ai vu un reportage sur IKEA, rien à voir avec le podcast, mais et c'est vrai qu'IKEA, ils ont une bonne image globale, tu vois, les gens en ont plutôt une bonne image, et en fait le reportage sur Arte, regardez-le, est vraiment pas mal, te montre que c'est des horrible, tu vois, et je me demandais, est-ce que tu peux être gros et bien avoir un impact, mais en fait ça a l'air d'être impossible, quoi.
Bah, en fait tu vois, par exemple chez Thierrier, c'est une brasserie qui existe depuis 25 ans et ils font, je sais plus, 2000 hecto par an, je crois. Et c'est très bien.
Ils vont pas aller plus loin.
Tout le monde bosse là depuis.
Je pense que ça peut être intéressant de faire un épisode sur la croissance et être gros ou pas.
Pourquoi tu veux devenir un gros? Qu'est-ce qui t'amène à vouloir brasser des.
Je pense qu'après, tu mets le doigt dans un système où la question ne se pose même plus, tu vois.
Il faut être gros, faut grossir. Ah, la croissance.
Je pense qu'il y a, tu vois, il y a un peu ce truc dans ta tête, genre, il faut croître. Je pense que. Ou peut-être.
Mais c'est ce qui m'avait plu quand, du coup, j'avais rencontré Robin, c'est que je crois que j'avais posé la question, tu sais, genre, à quelle taille tu veux aller, tu vois.
Ouais.
Est-ce que ton objectif, c'est d'être Henken, si on te le propose, tu vois. Et du coup, tu m'avais dit, à partir d'un certain moment, moi, j'aimerais plus me diversifier vers d'autres trucs. Plutôt que de augmenter ma capacité à faire de la bière, tu vois. Mais c'est peut-être, après il y aura plein d'autres projets, mais...
Là, tu fais la transition directe pourquoi aller vers Tip-Sip.
Tu l'avais en plus déjà un peu fait en mettant déjà des bornes, des points un peu plus négatifs que tu avais trouvé chez Vézelay. Enfin, un peu plus négatif. Ou du moins
ce qui me manquait un peu.
Ouais. Du coup, je vous ai coupé. On voulait parler de ce qui t'a amené vers Tip-Sip, et donc aussi ce qui te manquait chez Vézelay que tu voulais aller chercher ailleurs.
Moi c'était par le podcast que j'avais découvert
Auditeur. Il y a un épisode sur les trucs, mais c'est trop cool le fait que tu sois auditeur base, tu vois. Moi je trouve qu'il y a eu un gros, enfin déjà je pense que tu savais plus où tu mettais les pieds, parce que finalement il y a quand même pas mal d'heures de contenu, et du coup en tout cas moi j'ai trouvé ça assez agréable de voir que on était plutôt sur la même phase sur beaucoup de choses. Et je pense que c'est aussi lié au fait que en écoutant le podcast t'es plus calé avec il y a moins d'erreurs quoi de casting.
En fait, je suis arrivé là, moi je te connaissais, toi tu me connaissais pas.
Non, mais.
Ah si, j'étais venu l'année dernière d'ailleurs.
C'est vrai qu'on s'était vu.
Croisé.
Mais. Je t'avais pas vu longtemps, je sais plus, t'étais plus avec Pépé sur ce truc-là.
Ouais, j'étais passé, on avait bu une bière.
Mais du coup, moi j'avais trouvé ça très cool de me dire, mais. Ouais, on est bien calé quoi. Genre, je pense que quelqu'un qui écoute pas le podcast et qui du coup postule un peu comme ça machin va être un peu plus en décalage ou il y a plus ce risque là, tu vois. Je trouve que du coup tu savais plus où tu mettais les pieds et c'était assez agréable d'avoir la même vision sur plein de choses.
Oui, ou au moins tu savais.
Je pars un peu sur la partie 3 là, mais je t'ai coupé, pardon. Donc c'était auditeur à la base. Là, je trouve ça trop stylé.
Mais c'est vrai que en fait je te connaissais un peu, enfin je connaissais comment s'est montée la brasserie, tout ça, donc je découvrais moins quoi.
Tu t'es pas dit mais merde, les cassos depuis le début là ils racontent n'importe quoi. Moi j'ai fait la formation, je sais qu'ils racontent n'importe quoi.
Ah oui, t'as dû relever peut-être des belles des
non
belles
ça calories. Va on dit pas n'importe quoi.
Il rigole là.
Non mais c'est pas ça, mais tu vois, enfin c'était il y a deux ans je crois que j'étais passé, où du coup ça restait encore un peu petit et tout
On était sur le Brutools encore, il y avait pas le PBC à ce moment là
mais oui je me souviens que il y avait deux trois trucs que j'ai dit.
C'est des ouf.
Ça mériterait de bosser un peu la théorie. Non, sur le. Ouais.
Tu m'étonnes.
Mais ça, après, franchement, tu vois, là, les dernières bières que vous avez sorties et tout, je trouve ça trop bien. Et du coup, il y a une grosse professionnalisation aussi, mais pas de la même façon que moi je l'ai faite, mais par la pratique et puis le fait de se renseigner constamment.
Test and learn.
Ouais, c'est ça. Et
comme diraient les start-upers.
C'est un peu ce qu'on disait. Tu vois, quand je suis arrivé ici, du coup, on changeait le matos complètement. Donc, toi, tu voulais un peu mon avis sur comment placer les trucs et tout. Et moi, c'est vrai que j'étais allé dans une brasserie où tout était nickel. Mais en fait, Robin, il a monté plus de brasseries que moi. Quoi. Donc, même si j'ai la théorie, lui, il s'y connaît plus en câblage.
C'est vrai que, du coup, au final, en ayant bossé que dans une brasserie, j'ai l'impression d'avoir d'être ma troisième brasserie.
Ouais.
Au niveau matos, en soi, il y en a eu trois différentes. Donc, c'est vrai que ça, c'est vrai que c'est marrant. Et c'est sûr que monter celle-là, même si c'est beaucoup plus compliqué en termes de matos et tout, bon, on en reparlera dans un autre épisode, c'est pas le sujet. Je pense qu'on fait, beaucoup. Il est long, non, l'épisode?
Il va être long,
Il va être long. Ah, peut-être qu'on le mettra en deux parties, à voir. Ou non, si ça tient. Je te vois. Non, mais de toute façon. Ok. Petite digression sur le fait que. Au bout de la troisième brasserie, il y a des compétences acquises qui font qu'il y a des trucs qui vont plus vite. Tu vois,
et puis tu te rends compte de tes erreurs quand tu les as fait toi-même. Alors que tu vois, le fait de bosser dans une brasserie qui est pour moi quasiment idéale, en fait, tu te rends pas compte de ce qui marche bien parce que des problèmes que tu peux avoir parce que tu les as jamais connus.
C'est vrai. Mais du coup, là, on a passé à un autre sujet qui est. Le changement de la salle de brassage et le premier entretien qu'on a fait, la PVC était encore là les fermenteurs, c'était encore les cuves pharma et tout ça. Et t'étais déjà chaud de venir avec l'ancien matos et je t'avais pas dit que ça allait changer.
Ouais.
Et moi, je t'avoue que ça, ça a été une preuve de. Je me suis dit, mais tain, il est fou quoi. Genre, il quitte Bezley pour aller là. Alors que vraiment, c'est pas que ça vendait pas du rêve, mais c'était le matos, il était un peu bancal quoi. Enfin, pas bancal, mais.
Après, tu vois, le côté.
Il y avait beaucoup de difficultés quoi.
Le côté galérer pour dédrécher ou ce genre de choses. Porter des sacs et tout, moi ça me dérange pas parce que quand tu fais 3 brassins par jour, de toute façon c'est plus physique que de faire un brassin galère par semaine.
Ouais.
Mais donc ça me dérangeait pas. Après, c'est plus sur la partie bordel quoi.
Ouais,
franchement,
ouais.
Quand je suis rentré là-dedans, j'ai fait bon, alors franchement, la PBC, aucun problème. Les tanks sont cool et tout, mais par contre, faut tout qu'on vide quoi.
Ouais.
Faut qu'on vide toute la brasserie, faut qu'on fasse les sols quoi.
Ouais, le sol, c'est vrai que ça a été beaucoup poussé pour ça. On en reparlera dans la partie travaux, hein, mais non, c'est vrai que moi je me suis dit, ouais, chapeau quoi, t'es prêt à venir là-dedans.
Bah, du coup, je suis très content aussi.
Après, je t'ai dit que finalement, je changeais de matos. Ouais. Mais ouais.
Et par rapport à Vézelay, du coup, il y avait un peu un truc où tu t'es dit tu vas avoir un peu plus de liberté dans le brassage ou
Bah ouais, carrément. C'est ce que Robin m'a dit. De toute façon, il m'a dit que c'était un peu mon outil de travail, quoi, entre guillemets. Donc pour ce qui est de la disposition et tout, on a vu ça ensemble. Tu vois, je vais être plus ici que lui, donc
ouais.
Y a ça, quoi. Donc plus d'autonomie, c'est sûr. Et puis sur les recettes, j'ai hâte de m'y mettre, mais
ouais,
forcément, ça va être...
Ouais, niveau style, niveau création de recettes et tout, c'est ce que je recherchais aussi, tu vois, quelqu'un qui pouvait proposer des nouveautés. Après, ouais, encore une fois, on part sur la partie 3, mais le fait que tu aies toute cette expérience, justement, plus théorique, plus rigoureuse aussi que moi j'avais pas, ça m'intéressait de ouf. Et quand je t'ai rencontré, je me suis dit, mais je vais apprendre tellement de trucs. Enfin, c'est vraiment ce truc aussi de je me suis dit que ouais, t'avais beaucoup de choses à m'apprendre et que ça allait que tirer la brasserie vers le haut. Et donc, améliorer tous ces trucs là, ces process, parce que finalement je les ai pas du tout, tu vois, les process rigoureux d'une grosse brasserie. Et ce côté créativité aussi, j'ai senti que tu avais envie de pousser un peu les recettes.
Mais ça, ouais, du coup, ça, toi, tu l'as en plus, et ça peut être un truc qu'on se retrouve, quoi, parce que je sais que je vais pas essayer de le convaincre de faire une bière, je sais pas quoi, et que lui, il va y aller à reculons.
Ouais, donc, c'est vraiment c'est ce point-là qui t'a poussé à partir de Vézelay pour rejoindre Tipsip ou...
Ouais, c'est aussi le côté, tu vois, au niveau des process et tout. Enfin, il y avait ça, hein, forcément.
Ouais.
Niveau process, moi, j'avais envie de mettre un peu plus les mains à la pâte.
Ouais.
Et puis de. Ouais, tu vois, de voir un peu de A à Z.
D'être un peu moins l'usine, quoi.
Et un peu d'être moins l'usine.
Ouais.
Parce que c'est vrai que l'hiver à Vézelay, c'est un peu morose, quoi. Enfin, il y a moins le bar et du coup, t'es un peu dans ta cuverie, quoi.
Oui. Et ici, avec les 3 brassins par jour
Et ici, ce qui me plaisait, c'est que t'as du brassage, mais t'as de l'embouteillage, c'est pas le plus fun, mais c'est bien de le faire soi-même aussi, tu vois.
Ouais.
Et puis après, t'as plein d'autres trucs, des événements, des trucs à côté, quoi, où tu peux te confronter un peu aux gens qui boivent ta bière, quoi.
Ouais.
Ouais, ça, c'est un truc que je trouve important. Cool, ouais. Et que je t'aurais pas du tout forcé à le faire si t'en avais pas envie, mais je trouve ça cool. Que tu m'as dit, ouais, j'ai un peu besoin de aussi voir comment ça se passe en vente. Et moi, je trouve ça hyper important de pas être derrière ta cuve et de pouvoir voir les gens et de tirer des feedbacks qui sont au final, il n'y a pas de mots, c'est juste des expressions, c'est juste des moments, c'est des émotions qui passent et tout ça. Et en fait, juste les capter, ça peut te donner d'autres idées, ça peut te dire, ah bah ouais, en fait, cette recette, faudrait plus faire comme ci, comme ça. Je trouve ça hyper important de garder le contact avec les clients et c'est cool que tu aies eu cette envie là aussi de sans que ce soit 100% ton rôle, mais de.
Ah bah c'est le côté marketing qui revient, quoi.
Ouais, je pense qu'il est loin le côté marketing.
Non, la vente, c'est pas un truc qui t'attire.
Non, la vente, je suis nul à chier. En fait, je pense que la vente, si j'aime bien ma bière, je vais la vendre bien, tu vois. Ouais. Si je la trouve pas ouf, pas plus que ça, quoi.
Oui, non, mais je veux dire, t'as une facilité quand même à aller au contact avec les gens, à discuter. À être,
ouais, ouais, bah, ouais, franchement, pas sur un truc dont je suis fier, carrément. Ouais. Mais c'est ça qui est cool. En fait, si tu brasses de la bière et que dès que ça franchit la porte, t'en entendras plus parler, tu te sens moins responsable de ce que oui. ça va devenir, tu vois.
Ouais.
Alors que bah, si tu vois un peu les réactions, et des fois il y a des gens qui vont percevoir des choses que toi tu perçois pas.
Oui.
Et tu dis, ah ouais, putain, peut-être j'ai pas les papilles pour ressentir ce truc-là, toi tu les as, tu vois, on est tous différents à ce niveau-là. Et ça peut te permettre de te dire que, ah ouais, c'est vrai que niveau process, j'aurais peut-être dû faire comme ça, etc.
Ouais. Ah tiens, ça peut être perçu comme ça.
Ouais. Ouais.
Du coup, amis brasseurs dans des grosses brasseries qui ne sortaient pas de vos cuves, allez vous confronter un peu au monde extérieur. Ça peut vous apporter de nouvelles idées.
Ouais, et puis ça peut aussi casser un peu certaines idées reçues que tu te fais. Par exemple, ce qui était cool à Vézelay, c'est qu'on avait le bar juste à côté. Donc ouais. En été, il y avait pas mal de passages, et dès qu'on faisait des tests, on pouvait faire goûter aux gens.
Ouais, c'est cool ça.
Et ça, du coup, ça rejoint ce truc-là. Et c'est hyper intéressant, et tu vois, de te dire, tu fais une bière aux fruits qui est acide, et quand tout le monde te dit, ah non, les gens, ils aiment bien les bières fruitées, etc., et que les bières acides, c'est des bières de geeks, et en fait, tu les fais goûter aux gens, et bah, ils kiffent.
Ouais.
Même si c'est pas des geeks, tu vois, même si d'habitude ils pensent qu'une bière à cerise c'est, ou cassis c'est sucré, et ben, si tu leur files un truc acide, ils disent ah, c'est différent, mais c'est super bon. Et,
ouais.
Et si t'en as à vendre, je t'en achète, quoi.
Ouais. Ouais, c'est ça qui est cool aussi, bah, c'est un peu là où ça rejoint un peu la philosophie de Tipsy, quoi, qui est de un peu d'ouvrir des perspectives vis-à-vis de la bière aux tous les publics, quoi. Un peu d'aller casser des clichés. Ouais.
Puis moi, servir une NEIPA à quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est le meilleur sentiment du monde.
Ouais. Elle va refaire. Oh, mais c'est de la bière, ça.
Bah, ouais,
c'est incroyable.
Vous avez mis des fruits dedans.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ouais.
Ah non, c'est que le houblon.
Ça me rappelle la première que j'ai bu.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais, tu te revois à faire genre. Mais c'est incroyable.
Ouais, ça, c'est kiffant. C'est le côté. Tu vois, j'aime bien le côté geek du brassage, mais j'aime bien aussi proposer à des gens qui ont moins l'habitude. Et pour ça, c'est trop kiffant.
Ouais. Ah, ça c'est cool, ça rejoint bien l'idée de Tipsy depuis le début.
Ouais.
Et puis toi, ça, comme ça, ça t'oblige à ranger un peu ton bordel. C'est...
Ouais, grave. Non, mais en vrai.
Je fais une mauvaise transition sur la complémentarité là, si je passe ta.
Non, mais il y a ce truc là de me dire que t'allais apporter tout ce côté plus rigoureux que t'as pu avoir en grosse brasserie. Nous. Il y a eu ce côté Brassam plus à chaque fois, tu vois. Enfin, c'est vraiment Green Phaser, Brutus, bim, tu rajoutes d'autres trucs. Et au final, ça devient une brasserie plus grosse et qui ressemble plus à une vraie brasserie, même si j'aime pas trop ce terme-là. Mais du coup, en apprenant tout sur le tas et en confrontant aussi avec les retours d'autres brasseurs, mais tu vois, ça me manquait peut-être d'une structure plus pro sur certains sujets. Et notamment avec l'augmentation de capacité, il faut être hyper rigoureux sur plein de trucs, tu vois, des trucs bêtes comme juste le planning de brassage ou même si on a essayé de mettre en place des trucs, c'était pas toujours tenu, alors c'est pas grave quand tu fais 150 litres, mais quand c'est plus, ça devient un peu embêtant, quoi.
Ouais.
Donc il y avait vraiment ce truc là et puis après, on s'est plutôt bien entendu aussi sur pas mal de trucs, notamment les softs. C'était un truc qui te.
Ouais.
Genre, moi, ça m'a vachement plu que tu m'aies dit, mais les softs, grave. T'avais déjà lancé deux sodas en test.
À Vézelay, j'en ai fait souvent des limonades.
Ok, ouais.
Ouais, des softs et tout.
Bon, en tout cas, je me souviens que pendant le truc, tu m'avais dit, j'en ai deux là.
Oui, j'en avais deux à ce moment-là.
En cours, quoi. Ouais.
Et ouais, j'ai fait plein d'essais. Ouais.
Ok. Et ça, ouais, cool, ça me plaisait de ouf.
Tu vois, ça, typiquement, c'est un peu l'espace de liberté que je m'autorisais aussi là-bas. Ouais. C'est que je fais une limonade, je la branche au bar, ça part en 3 jours. Et puis j'en refais une autre. Tu sais, dès que j'ai un peu le temps, tu vois, je fais ça. Et du coup, t'as un retour immédiat, quoi, des gens par rapport à ce que tu fais, quoi. Mais ça, sur les softs, moi j'étais super chaud. Et puis sur d'autres sujets, sur la remorque.
Ouais, la caravane, c'était déjà un projet que tu m'as montré la caravane que tu avais achetée, c'était genre celle que j'avais repérée en mode sur le bon coin et tout. Et ouais, non, ça c'était très marrant, c'était un projet que j'avais depuis un petit moment. Et que j'avais pas eu le temps de mettre en place, et toi t'avais déjà la remorque, t'avais quasiment tout en tête, et t'as finalisé avant d'arriver ici au final.
Ouais.
Le projet.
Ouais, en fait je m'étais dit à la fin, quand j'étais encore à VSD, je me suis dit je vais m'acheter une remorque, je vais mettre des becs dedans, je vais me faire un bar mobile, et puis je le ferai en plus de mon boulot pour écouler un peu de bière, si moi je peux en faire à côté c'est cool. Bon, ça demande un autre statut, quoi. Mais...
Ouais.
Et puis peut-être essayer de faire du brassage à façon, je sais pas, je savais pas trop, tu vois. Mais je me suis dit, achète la remorque, comme ça t'auras pas le choix. Donc, se retrouver avec ça, devoir la garer à droite à gauche. Et puis après, j'ai fait un peu de boulot dessus. Et puis du coup, t'as un petit bar mobile, quoi. Tu t'arrêtes, t'ouvres la porte, t'as 4 becs.
Ouais. Fin
de marché, fin de foire, tu refermes. C'est bien de mettre un petit coup d'eau dedans quand même pour pas que ça colle, mais hop, tu rentres chez toi et puis t'as fini, quoi.
Ouais. Et ça c'est un projet qui était là sur une petite note. Il y a quelques favoris dans le bon coin de caravane, quelques notes de choses à acheter et tout ça, mais j'avais jamais eu le temps de pousser le truc. Du coup quand tu m'as dit ça, j'étais mais c'est un truc de ouf, c'est exactement le projet qu'on voulait mettre en place, donc ouais, ça va être trop cool. Et sinon, après, ouais, dans les autres trucs un peu de complémentarité, j'ai trouvé qu'on s'entendait bien aussi sur juste le fait d'être ensemble, de parler d'autres trucs et tout. Je sais plus, l'entretien, en vrai, c'était pas... Ça a duré assez longtemps, parce qu'il y avait eu toute la présentation de la brasserie, ensuite on a pris un café, on est revenu, enfin je sais plus, j'avais trouvé ça... au-delà de juste un entretien, de poser un bureau, bonjour, ok, c'est quoi, bon bah je te rappelle dans une semaine, quoi. Le feeling était bien passé, et ouais, voilà. Attends, il y avait d'autres trucs aussi que je voulais dire, mais là j'ai plus en tête. Mais ouais, bah tout ça pour dire que, ah oui, si quand même, j'aimais bien le côté que t'étais pas juste en mode brasseur, et que t'avais l'air de t'intéresser beaucoup aussi un peu à la stratégie. Tu t'accordais quand même de l'importance à la marque, à comment tout s'était un peu développé et tout ça. Et t'étais pas juste en mode les bières, les recettes et.
Ouais.
Enfin voilà.
Ouais, bah après, ce qui est cool, c'est de pouvoir faire un peu plein de trucs différents, quoi, tu vois, faire un peu de prod, un peu de vente, un peu de réfléchir au prochain projet, voir si c'est cohérent avec ce qu'on veut faire. Parce que ouais, le risque, si t'as un brasseur qui te propose des trucs qui sont pas cohérents, après finalement ta marque se perd un peu, je pense, tu vois, pour moi tout est lié à
ça. Oui, il faut pas être trop déconnecté des attentes de
Et du coup je trouve ça cool de pouvoir échanger. Après, je pense que, enfin, j'espère que ça se passe comme ça chez tout le monde. Après, peut-être qu'il y a d'autres manières de fonctionner, mais le côté pouvoir réfléchir ensemble sur des projets, sur même l'avenir de comment on fait le truc et tout. Et on était plutôt bien synchronisés sur tout ça. Je trouve que ça m'a beaucoup donné de confiance dans comment on pouvait construire le projet ensemble. Je trouve que tu avais une vision hyper claire de là où je voulais aller et que tu partageais beaucoup de cette vision, et donc voilà.
Et toi Robin, du coup, est-ce que tu vois le truc comme aussi vis-à-vis de la répartition des tâches, est-ce que il y a un truc où tu vas être moins dans le brassage parce que ça va être plus
Moi je fais plus rien, je le regarde faire, ça y est,
Non mais je veux dire, ça va être plus du domaine d'Antoine, parce que il est plus habitué pour le moment, en tout cas, ce
Bien sûr, et encore une fois...
Il y avait aussi un truc où tu avais quand même besoin de quelqu'un qui avait de l'expérience, qui était capable de faire tourner une salle de brassage toute neuve.
Peut-être que j'aurais pas changé le matos si tu venais pas... Enfin, tout s'est plutôt bien concordé. Je trouve que c'est des changements qui, ensemble, mis bout à bout, faisaient que tout avait du sens. Est-ce que j'aurais pris le risque de prendre quelqu'un plus changer de matos et quelqu'un qui est pas pro ou qui à qui fallait mettre toute la stratégie en tête et tout ça. Enfin,
bah on en a parlé un peu pendant l'épisode du recrutement où on finissait par conclure que oui, t'avais quand même besoin de quelqu'un qui était un peu pro et
c'est ça. Et au niveau de la répartition, on l'avait déjà vécu avec Pépé et moi j'ai toujours trouvé ça important en entrepreneuriat en règle générale de bien se séparer les tâches parce que il faut que chacun puisse avoir son petit espace de liberté et que aussi pour la santé mentale de moi de pas avoir à décider de tout, tu vois, c'est horrible de devoir prendre les décisions de tout parce qu'au final tu sais pas, tu prends des risques et c'est bien de pouvoir dire c'est pas ma partie, c'est le jeu. Même si,
Pour autant cloisonner complètement.
Sans pour autant cloisonner, te dire, ok, je le sors un peu de ma tête et les risques là, tu vois, quand j'étais tout seul, ouais, c'était dur de en même temps penser aux ventes, en même temps penser aux prochaines bières, en même temps voir la fermentation, pourquoi ça déconne et pas avoir le temps de creuser de pourquoi il se passe telle chose.
Puis, tu disais le doute aussi d'être tout seul à prendre des décisions.
C'est ça.
Et puis de creuser des idées quand t'es tout seul, c'est plus difficile. Quoi.
Ouais.
Tu tournes un peu plus en rond.
C'est ça, c'est bien de pouvoir échanger et d'avoir un. Des fois, en plus, tu pars un peu dans un truc tout seul dans un coin et tu te dis oula, est-ce que c'est bien là ou est-ce que c'est moi qui suis parti trop loin?
Ouais.
En tout cas, pour revenir sur la séparation des tâches, c'est quelque chose qui est important et qu'il faut faire. Pour autant, c'est ce que je te disais aussi pour le premier brassin. Moi, je suis là en mode. J'ai un nouveau joujou énorme, j'ai trop envie de brasser dessus.
Ah bah oui.
Donc, c'est pas pour autant que je vais être là en mode non, c'est bon, je suis commercial maintenant.
Ah
je,
oui, non.
Genre, loin de là, ça reste une passion. Et c'est... Mais, et puis en plus, ce que je disais tout à l'heure, je sens que je vais apprendre beaucoup de trucs, tu vois. Des choses où j'aurais pas forcément eu le temps de creuser, de lire des bouquins et tout, et que toi tu fais plus et que t'as pu faire. Et du coup je suis grave curieux de ces trucs là j'aime beaucoup les expériences entre guillemets. Voir tout ça ça motive de ouf et voilà, après faut pas non plus être à deux à brasser tout le temps et faut pouvoir penser aussi que il faut vendre, il faut développer et il faut faire en sorte qu'on puisse encore brasser dans un an, dans deux ans et que tu vois, c'est pour ça que c'est important de se séparer les missions, quoi. Je sais pas si c'était très clair et si la
ça
question était
ça
vite répondue, mais
ouais, la question elle est vite répondue, mon pote.
Okay.
Écoute, j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour du sujet. Il y a des actualités chez Tipsip dont t'aimerais parler avant de refermer l'épisode.
Non, on va faire un prochain épisode sur le matos, je pense, parce que ça c'est après la nouvelle marque, le nouveau brasseur, c'est le nouveau matos.
J'ai l'impression qu'on a fait une mauvaise annonce à la fin du précédent épisode. On a dit on va parler des travaux et dans deux semaines ou un truc comme ça.
Peut-être. Ouais, ça change.
Bon, on n'a pas parlé des travaux.
Soyez patients, ça arrive.
Mais il y aura de l'épisode matos bientôt. Et merci, c'était très cool. Cet épisode est un peu long, mais bon, il y avait beaucoup de choses à dire. Donc, tant mieux. Premier épisode avec Antoine aussi, donc c'était.
Aïe, 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 JC.
JC, ouais, JC RPZ. on se retrouve bientôt.
Ça va.
Yes.
À plus. Ciao.